Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode.
Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Vous le savez, et vous le savez, comme à chaque semaine, on vous demande d'aller nous laisser une petite note sur Apple, sur Spotify. Ça nous fait toujours tellement plaisir, puis ça nous pousse tellement toujours plus haut. Puis sinon, ben, on vous demande de venir nous rejoindre sur Instagram, dans nos messages privés ou dans nos DMs, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, on va enchaîner tout de suite avec les moments what the fuck de la semaine. Jess, c'est toi qui commence cette semaine. Je dis le cocktail ou c'est toi qui dis? Je sais pas, après un an et demi, j'ai encore de la misère. Bref, c'est moi qui commence cette semaine. C'est un moment qui m'est arrivé il y a quelques semaines justement, mais j'ai tellement trouvé ça weird. J'étais en train de conduire pour m'en aller chez mes parents. Puis, je regarde dans mon rétroviseur et je vois une Tesla, mais le conducteur est une poupée gonflable.
Ah, d'accord. D'accord, il n'y avait personne d'autre dans le véhicule.
Une chance qu'il y avait un peu de trafic. J'aurais jamais dit ça dans une autre situation, mais pour une fois, j'étais contente qu'il y ait du trafic, parce que j'ai comme vraiment pu analyser la situation. J'ai laissé l'auto venir vraiment proche en arrière de moi pour essayer de comprendre ce qui se passait. Il y avait deux individus dans l'auto, quelqu'un dans le côté passager, puis quelqu'un en arrière, puis ils trouvaient ça bien drôle, ils se filmaient. Puis à un moment donné, j'ai perdu l'auto de vue parce qu'il y a quelqu'un qui a coupé derrière moi, puis il a pris la place derrière moi. Puis quand j'ai revu les gars, ils étaient les deux assis en avant, puis la poupée était en arrière.
Oh mon Dieu! Fait que si jamais quelqu'un sur les réseaux sociaux est passé sur peut-être une vidéo dans laquelle il y a deux personnes qui sont à bord d'une Tesla conduite par une poupée gonflable, ben sachez que Noémie l'a vu en vrai.
Et sachez que c'est très illégal. S'il vous plaît, faites pas ça. J'ai pas envie de me faire foncer dedans par une Tesla conduite par une poupée gonflable.
Genre, gars, des fois, là, vaut mieux juste s'abstenir de tout commentaire.
Et voilà, et c'est ce que je vais faire, et c'est pour ça qu'on va enchaîner tout de suite avec ton moment what the fuck la semaine.
Mais moi, mon moment, il est un peu plus wow que what the fuck cette semaine. C'est, je l'ai dit, là, des fois, je me lève super tôt pour aller travailler, puis là, ben, je suis sur le corps de travail qui fait en sorte que je me lève au milieu de la nuit. Mais étant donné que le soleil se lève vraiment plus tôt ces temps-ci, ben, ça fait en sorte que plusieurs matins, en fait, tous les matins, quand il va faire beau, sauf quand il va faire des nuages, mais c'est pas grave, quand il va faire beau, je vois toujours le lever du soleil. Puis on dirait que ça porte tellement bien ma journée, puis ça m'a fait rappeler que, faut prendre le temps d'apprécier les petites choses de la vie, puis des affaires comme des couchers puis des levers de soleil, ça peut juste tellement changer ton humeur pour une journée. On dirait que c'est fou la différence que ça fait juste comme d'observer ce beau moment de nature-là. Fait que allez passer du temps en nature puis profiter de toutes les beautés que la nature nous offre, que ce soit des levers de soleil ou juste un ciel bleu, ou allez prendre du temps pour aller monter des petites montagnes. Amusez-vous! C'est pas des ordres que je vous donne, c'est un petit conseil.
Crie-moi pas après, tu me diras pas quoi faire. Mais non, c'est vrai, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Ça fait du bien au cœur.
Ouais, ben c'est ça, surtout que comme la saison estivale est de retour, fait que ça fait vraiment du bien d'aller profiter de toutes les séances de photosynthèse qu'on a manquées pendant l'hiver, puis d'aller prendre beaucoup d'air, de soleil, puis de profiter de notre belle nature.
Sur ce, pour profiter encore plus de la belle nature, est-ce qu'on fait un petit mocktail, je crois, aujourd'hui, Jess?
Ben oui, on vous a menti aujourd'hui, c'est pas crème et cocktail, c'est crème et mocktail.
Oui, parce que en fait, je crois que je l'avais pas encore dit sur crème et cocktail, mais j'ai décidé d'arrêter de boire complètement, et non, je vais arrêter de boire pendant 3 mois ou je vais arrêter de boire pendant 1 an, non, j'ai juste décidé d'arrêter de boire. Donc, on va avoir beaucoup de mocktails dans les prochaines semaines. On va essayer aussi de faire des épisodes que ce soit juste des mocktails ou qu'on aille un cocktail, mais aussi la version mocktail. On va voir comment qu'on va s'arranger avec ça pour la suite, mais toutes les personnes qui ne boivent pas aussi puis qu'à l'écoute, on faisait souvent des cocktails, ben vous allez être super contents de savoir qu'on va avoir beaucoup de mocktails qui s'en vient.
Ouais, définitivement, c'est sûr qu'on va toujours essayer de vous trouver une petite alcool qui fonctionne bien avec le mocktail du jour pour que ça puisse être un cocktail si jamais vous en avez envie. Là, on veut pas changer l'essence de notre podcast, mais je pense que c'est ça, Noémie, arrête de boire complètement. Moi, je suis vraiment dans une phase où j'ai juste pas envie de boire autant qu'avant, j'ai jamais eu de problème à avoir toujours envie de boire, là, mais je veux dire, j'ai comme pas envie, j'ai pas le goût, j'ai plus envie d'avoir un liquide, mais j'ai plus envie d'avoir l'effet qui vient avec. On dirait que je suis rendue à une étape de ma vie où ça m'étourdit trop vite.
Ma mère a dit que c'est ça vieillir. Donc c'est ça, comme d'habitude, si vous avez des problèmes avec la consommation, quoi que ce soit, toxicomanie, alcool, jeu. Il y a toujours les liens dans notre barre de description sur nos réseaux sociaux pour des organismes, des fondations qui viennent en aide aux personnes qui sont affectées par ça. Il y a une affaire que le gouvernement dit souvent qui ont raison, c'est que la modération a bien meilleur goût. Sur ce, allons-y avec notre mocktail qui est un Virgin Orange Bomb ou la bombe d'orange Shasta. J'aime tellement nos petites traductions. Vous allez avoir besoin de jus d'orange fraîchement pressé, 3-4 tranches de clémentine écrasées et vous allez allonger le tout avec de l'eau pétillante à l'orange et décorer avec une branche de romarin. Aussi simple que ça. C'est ce que j'aime avec les mocktails, c'est que ça vient chercher la simplicité, puis c'est bon pareil, puis j'aime ça.
Je suis entièrement d'accord avec toi, et si j'avais à conseiller un alcool à mettre avec ça, je pense que j'irais encore une fois, je suis désolée, c'était mon go-to pendant tellement longtemps, ça va le rester, c'est la distillerie Trois Lacs, le gin à l'orange sanguine.
Ouais, moi aussi je suis vraiment d'accord avec ça. On dirait que c'est ce qui se mélangerait le mieux. Puis, honnêtement, j'aime ça. Je trouve que c'est rafraîchissant. Je donne un bon 8 sur 10.
Moi aussi, je pense. Mais moi, je pense que je vais y aller même pour un 10 sur 10. Là. Moi, les oranges puis le pétillant. Mon match.
8 sur 10 et 10 sur 10, note finale.
Note finale. Sur ce, je dois dire cheers!
Chin, chin. Donc, Jess, de quoi me parles-tu aujourd'hui?
Le monde du true crime a été assez ébranlé en 2015 quand Gypsy Rose Blanchard, elle a ordonné l'assassinat de sa mère. Elle était incapable d'accepter l'abus qu'elle subissait des mains de celle qui a donné la vie et plutôt que d'opter pour une autre solution, elle va décider d'opter pour une solution assez radicale, merci, et elle va en payer le prix de sa liberté pendant 10 ans. Elle a été libérée en décembre 2023 et maintenant Gypsy Rose est jouée d'un statut de quasi-célébrité. Là. Avant qu'elle prenne la décision de supprimer ses réseaux sociaux, elle était suivie par des millions sur ceux-ci. Elle partageait son quotidien, elle fait des vidéos dans lesquelles elle souhaite une joyeuse fête des mères à sa mère et elle partage aussi sa vie amoureuse à des milliers d'abonnés. Elle est au cœur de plusieurs documentaires, des entrevues médiatiques, des magazines à potins. À première vue, on pourrait bien dire que la population a pardonné à Gypsy Rose Blanchard de s'être donné justice elle-même. Pourquoi? En se penchant sur le phénomène, en consultant les commentaires des internautes, voici ce qui revient le plus quant à la jeune femme. Elle était d'abord et avant tout une victime. Malgré la gravité de son geste, la population est d'avis que Gypsy a payé le prix juste et qu'elle mérite maintenant de profiter de ses premières années de liberté véritable. Elle qui, selon les internautes, a été prisonnière de sa mère tout au courant de sa vie, maintenant elle peut goûter à la vraie liberté pour la première fois. Donc, la question que je pose, c'est est-il pardonnable de se donner justice soi-même si on est à la base une victime? Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont « Quand les enfants tuent » de Christian Page, qui est un livre que je vous recommande fortement, Murderpedia, CNN, TheLineUp.com et NBC News. Je vais juste faire un petit aparté ici pour mes notes. Le livre de Christian Page est tellement bien détaillé avec des détails que sincèrement, j'aurais pas été en mesure de trouver seulement avec les articles consultés sur Internet. Fait que un gros merci aux recherches de Christian Page. Ça l'a vraiment beaucoup aidé à me faire connaître ce cas et à le faire connaître à tous les gens qui vont l'écouter. Cody Austin Posey, il naît le 9 octobre 1989, ce qui fait donc de lui une balance. Il naît dans l'État de New York de ses parents Delbert Paul Posey et Carla June Cleese. Et ses parents, ils vont vraiment pas bien ensemble. Ils sont dans une relation extrêmement abusive, très houleuse, dans laquelle ils s'échangent des violences verbales et bientôt des violences physiques. En gros, le Paul Posey, c'est un bourreau. Il faut l'établir d'entrée de jeu, là. Il y a rien qui va à la limite de Paul, violence verbale, violence psychologique, violence physique, espèce de trifecta de violence que Paul fait subir à sa famille, a juste aucune limite. Faut dire que pour Paul, la violence, c'est la seule manière avec laquelle lui a appris à régler ses problèmes quand il était jeune, parce que lui aussi, il a grandi sous le joug d'un père extrêmement violent, jusqu'au jour où sa mère, à Paul, a décidé d'en finir et d'assassiner le père de Paul.
Je ne m'attendais pas à ça. Si on avait la version audiovisuelle, vous auriez vu mon visage.
Ce qui devrait s'en venir très bientôt d'ailleurs. Bon, pour en revenir à l'assassinat de son père, ben ça a eu de gros impacts sur la vie de Paul Posey et ben à défaut de s'inspirer de sa propre situation pour pas reproduire les mêmes erreurs, ben Paul va plutôt marcher dans les pas de son père. Alors que Cody a juste 2 ans, le Paul il se fâche contre lui tellement fort qu'il se met à le frapper avec sa ceinture. Évidemment, ben le petit Cody il a 2 ans, il est complètement terrifié, il est affolé, il pleure abondamment, il hurle et ben ça fait juste augmenter la rage et l'ardeur de Paul. Il frappe plus fort, plus Cody pleure, plus Paul frappe. C'est un des amis de Paul même qui était venu en visite qui va devoir le supplier d'arrêter de frapper son propre bébé. Le petit, il a été battu d'une manière tellement violente que ben il s'est uriné dessus et qu'il a déféqué partout dans sa couche. Carla, sa mère, en parallèle, ben elle va sombrer dans l'enfer de la consommation. Elle veut un petit peu engourdir, on dirait, sa réalité. Elle va prendre beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool. Elle veut juste s'évader de son quotidien de n'importe quelle manière. Puis on va dire que ben pour Paul, c'est juste une occasion de rabaisser, d'abuser ou de violenter de sa femme davantage. En 1992, à peu près 1 an après l'incident de la ceinture, Carla va prendre la décision officielle de s'enfuir, de quitter son mari abusif et Cody a juste 3 ans quand il va officiellement entrer sous la garde de son père Paul. Sa mère, elle, dans le but de se reprendre en main, de cesser de consommer, elle va s'engager dans l'armée. Et malgré le fait qu'elle est capable de quitter avec sa fille, enfant dont elle avait accouché avant de rencontrer Paul, elle va être obligée de laisser Cody chez son père. Peu de temps après la séparation, Paul Posey va faire la rencontre de Sandra Paul. C'est un petit peu confus parce qu'elle a le même nom de famille que le prénom de Paul, mais c'est une personne qui n'a aucun lien de parenté avec Paul. Et bien rapidement, ils vont prendre la décision de s'engager ensemble, ils vont tomber amoureux, ils vont déménager au Nouveau-Mexique pour de nouveaux défis professionnels. Et on est en avril 93 lorsqu'ils vont officialiser leur union. Puisque Paul assure le quart de travail de nuit, ben Cody passe énormément de temps avec Sandra, puis pour vrai, ils s'entendent super bien. Elle adore Cody, elle traite comme son propre fils, puis c'est vraiment réciproque. Le Cody, il est fou de sa belle-mère, il adore passer du temps en sa compagnie, mais il continue quand même d'entretenir un lien avec sa mère biologique, Carla, parce qu'elle aussi, elle déménage au Nouveau-Mexique. Et ben à chaque semaine, il va passer quelques temps avec elle. Ils ont une excellente relation, eux aussi, puis ben il adore passer ses journées autant avec sa mère qu'avec Sandra. Malgré l'amour inconditionnel qu'il reçoit de Sandy, ben Paul il continue son espèce de règne de peur et il cesse pas de tabasser Paul pour un rien. Là. Paul est clair comme de l'eau de roche, Cody c'est son fils et ben Sandra elle a pas à s'interposer jamais, donc chaque fois que Sandra essaie de le défendre, ben Paul refuse tout simplement que Cody soit défendu. Comme on peut lire à la page 235 du livre de Christian Page, ouvre la station. S'il ne mange pas tout le contenu de son assiette, Paul le frappe directement à la bouche. Si ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur des attentes de son père, celui-ci le frappe avec une raquette en bois. Et lorsque Cody se met à pleurer, il le traite de mauviette ou de sac à merde. Fin de la citation.
Je me demande, est-ce que les gens remarquent la violence que Cody subit? T'sais, y a-t-il des marques physiques quelque part? Ou même son comportement, est-ce que du jour au lendemain, il a changé? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui s'est passé?
Ben oui, évidemment, les amis de Cody, ils remarquent qu'il est rempli d'ecchymoses, il y a beaucoup de marques de violence, mais à chaque fois, Cody, il balaie tout sous le tapis, il agit comme si de rien n'était, il évite d'aborder le sujet. Puis ben, vraiment, malheureusement, ses amis vont faire pareil, là, tu sais, vu que Cody l'aborde pas, ben ses amis font juste lui laisser son espace, puis il en parle pas non plus. Ce qui est vraiment extrêmement tragique, c'est qu'il a tenté à quelques reprises d'en parler avec des enseignants, mais ils ont rien fait.
C'est tellement dommage, on devrait vraiment plus investir partout dans le monde, en fait, là, sur nos enseignants, parce que c'est eux qui sont comme à la source de tous les enfants, le futur de nous, de notre population, puis je trouve ça tellement dommage qu'il manque de ressources, puis de temps, puis d'énergie pour bien s'occuper, bien faire leur travail. Là, c'est vraiment dommage.
Ouais, surtout qu'on était comme dans les années 2000, fait qu'on était tellement dans une époque qui acceptait plus l'espèce de culture du silence derrière l'abus familial, tandis que maintenant, c'est un petit peu plus démocratisé, puis... Tu sais, comme tu dis, je trouve ça tellement dommage aussi parce que avec, mettons, notre DPJ, c'est tellement difficile si un professeur se rend compte, mettons, qu'un de ses enfants est mal nourri ou qu'il a pas les soins adéquats ou même qu'il y a des marques de violence. Ça peut toujours être tellement long à cause, comme justement t'as dit, des manques de ressources qu'on a aussi partout dans toute l'espèce de roue qu'il faut pour aider l'enfant, genre.
T'as raison, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire.
Bon, de retour à l'histoire de Cody, une personne qui va remarquer des ecchymoses sur Cody et qui va décider d'agir, c'est sa mère éventuellement. Elle est en train de lui donner un bain, je crois, et puis ben elle voit les marques, elle le confronte et c'est la première fois que Cody va avouer à quelqu'un la vérité sur sa situation familiale. Puis bien évidemment, le cœur de maman de Carla est brisé en mille morceaux. Elle veut tout faire pour aider à sortir son enfant de cette situation-là, donc elle l'amène dans un centre hospitalier. Le personnel médical va remplir un rapport de maltraitance, va envoyer le tout à la police du comté d'Otero, mais l'affaire s'arrête là. Je me demande même si le service de protection de la jeunesse a été alerté, informé. Puis même si le service de protection de la jeunesse a été informé, ben le résultat est le même. Le Cody, il est obligé de rester sous la garde tyrannique de son père, puis il est obligé d'embarquer dans le bateau familial lorsque ben tout le monde remplit ses bagages de tous leurs effets personnels et prend la route vers un autre comté, toujours au Nouveau-Mexique. Éventuellement, peu de temps après avoir déménagé, Paul va accepter que Cody adopte un chien et Cody, il est tellement heureux. Il adore son nouvel animal de compagnie, c'est son meilleur ami, il passe tout son temps avec et il est prêt à tout faire pour offrir la meilleure éducation à son nouvel ami. Aussi, peu de temps après avoir déménagé, Paul Posey va faire la rencontre de Tyrone Schmidt et il est toujours marié avec Sandra et elle est mariée et elle est maman d'une petite fille de 5 ans prénommée Mariella. Et peu de temps après s'être rencontrés, Tyrone et Paul vont quitter leur union respective pour officialiser le leur quelques mois plus tard. Le mariage de Tyrone et Paul, c'est littéralement le cauchemar de Cody. Lui qui jusqu'alors avait été cajolé, il avait été consolé, il avait été aimé, supporté par Sandra, ben il découvre tout le contraire avec Tyrone. Tyrone, elle voit Cody poser comme de la vermine, puis elle ne se gêne absolument pas pour le lui démontrer et le lui rappeler à chaque occasion. À défaut de son ancienne belle-mère, qui se rangeait toujours de son côté pour le défendre, ben Tyrone, elle devient l'espèce de main droite de Paul. Lorsque Paul est pas capable de garder un œil contrôlant sur son fils, ben c'est Tyrone qui prend le relais, puis qui va juste toujours l'observer et même aller dénoncer les agissements problématiques de Cody à Paul. Puis par problématique, on comprend que j'ai mis des guillemets à problématique. En parallèle, la fille de Tyrone, Mariella, elle est traitée comme une princesse, comme un ange tombé du ciel, elle est mise sur un piédestal, elle reçoit aucun châtiment, aucune insulte. C'est Cody posé l'espèce de punching bag de la famille. Pour le bourreau qu'est Paul, toutes les façons, toutes les occasions sont bonnes d'infliger de la douleur autant physique que psychologique. Un jour, le petit chien de Cody se blesse à la patte. Puis Cody, il souffre autant presque sinon plus que sa petite bête. Il va supplier son père d'amener le chien au vétérinaire. Il propose même à son père de payer lui-même avec son argent de poche la consultation, tous les soins nécessaires. Tout ce qu'il veut, c'est guérir son petit chien. Et Paul refuse catégoriquement de conduire le petit chien au vétérinaire et il va obliger Cody à abattre son chien lui-même.
Je suis tellement fâchée. Il y a quelque... Les animaux, c'est non. C'est... Non. J'en reviens pas que tu peux... En plus que tu forces ton propre enfant à abattre le chien. En tout cas, j'aimais déjà pas Paul, je le trouvais déjà machiavélique, mais là, c'est coulé dans du ciment. Cet homme-là est horrible.
Je suis d'accord avec toi. Pour vrai, je me sens tellement triste pour le petit enfant qui aimait tellement son chien puis qui a dû... Non, 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 non. Bon, évidemment, cette épreuve-là, ça l'ajoute un autre tuile à l'espèce de mur des traumatismes de Cody Posey. Puis il doit reprendre la route quelques temps après, déménager à nouveau avec son père, sa belle-mère, sa belle-sœur. Non sans supplier à son père l'autorisation d'aller vivre avec sa mère biologique à la place. Il est amené de vivre chez Paul de un, mais de deux, il veut pas changer d'école, il veut pas changer d'endroit, donc il supplie d'aller vivre avec sa mère. Et Paul Posey refuse catégoriquement. Parallèlement, Carla, la mère de Cody, elle va s'amouracher d'un soldat qu'elle a rencontré dans la Navy. Ils vont s'épouser en 2000, puis elle lâche pas le morceau. Elle veut absolument avoir la garde de Cody. Elle se rappelle très bien du témoignage que son fils lui a offert. Elle et son nouveau mari vont tenter par tous les moyens de convaincre Paul Posey de renoncer à ses droits parentaux. Ce qu'il va faire éventuellement, il va signer un document, envoyer Cody chez sa mère au plus grand soulagement de Cody, la mère et le nouveau mari de Carla. Cody Posey, il est convaincu que son calvaire est terminé. Lorsque Cody Posey quitte le ranch sur lequel il avait déménagé avec son père, je sais pas si j'avais bien expliqué, là, mais dans le fond, Paul, il déménage autant parce qu'il occupe des emplois d'intendant sur des ranchs. Donc, il apporte sa famille avec lui pour travailler, puis c'est pour ça qu'il déménage autant, puis qu'il est toujours sur des ranchs, et que Cody, par exemple, était forcé à travailler aussi fort, puis qui faisait déjà de l'argent de poche en étant aussi jeune. Donc bref, en quittant le ranch avec sa famille, Cody, il regarde pas en arrière une seule seconde. Lui qui a vécu tant d'années sous le joug de son tyran, ben il se transforme en nouvelle personne complètement quand il habite chez Carla. Il goûte au bonheur, à l'espèce de liberté, puis pour la première fois, il se fait parler avec respect. Là, il a jamais connu ça, lui, une figure d'autorité saine. T'sais, il y avait Sandra, mais quand même, Sandra, elle était, somme toute, assez contrôlée par Paul elle-même. Donc, il est littéralement en train d'éclore chez Carla. Le Cody posé, il est plus soulagé que les mots peuvent l'exprimer. Malgré tout, il va quand même continuer à faire des cauchemars assez terrifiants. Puis quand il se réveille, ben il a toujours peur de se réveiller et d'être encore chez Paul Posey. Puis quand ça arrive, ben il se console en se disant qu'il est en sécurité, il est chez Carla. Sauf que le cauchemar fait juste commencer. Un peu moins de 8 semaines après finalement avoir obtenu sa liberté, Carla, son nouveau mari et Cody vont prendre la route en direction de l'État de Washington pour y emménager. Et Cody, ben il est extrêmement content. Il se dit qu'il va être à des heures et des heures et des heures de son bureau. Mais les trois passagers sont impliqués dans un accident de la route extrêmement sérieux. Carla, qui était couchée sur la banquette arrière, a été éjectée sur le coup et est décédée.
Oh mon Dieu, c'est tellement horrible! Cody, déjà en partant dans la vie, il est parti à moins 50. On dirait que la vie est comme « on va juste en rajouter un tout petit peu encore ». C'est fou à quel point des fois t'entends les histoires de certaines personnes puis tu te dis « mon Dieu, c'est pire que dans un film », tellement que on dirait que c'est pas réel.
Le sort s'acharne tellement fort sur Cody Posey. Genre, moi non plus, quand j'ai lu cette histoire-là dans le livre de Christian Page, j'en revenais pas.
Je suis estomaquée, j'ai pas de mots.
Heureusement ou malheureusement pour lui, tout dépendant de quelle façon on veut voir les choses, ben Cody, lui, il s'en sort indemne, le nouveau mari de Carla aussi. Là, il y a vraiment juste Carla, malheureusement, qui va décéder. Et ben évidemment que la perte de sa mère, c'est lourd à porter, mais le décès de sa mère, ça veut aussi dire que Cody doit retourner dans les bras de son abuseur. Là. En perdant sa mère ce jour-là, ben Cody il a perdu toute forme d'espoir de se sortir du joug de Paul Posey. Lorsqu'il est de retour au Nouveau-Mexique, ben la situation chez les Posey, elle fait juste empirer. Il est aussitôt forcé de travailler encore, mais de plus longues heures, et de faire un travail vraiment physique. Là. C'est lui qui fait quasiment tout le travail d'un homme adulte de 20 ans et plus, là, on va dire par exemple, mais lui, il a 10-12 ans, puis il doit faire tout ce travail-là avec une grosse charge physique. Et bien qu'il soit rémunéré, ben son père ordonne à Cody d'endosser le chèque chaque fois qu'il reçoit, puis c'est Paul qui empoche l'argent. Un jour, Paul va accepter un nouveau poste d'intendant dans un autre ranch, et ce ranch-là, il appartient à un ancien star de ABC qui s'appelle Sam Donaldson. Et bien, la famille va déménager au ranch de Sam Donaldson. Dans sa nouvelle école, Cody, il n'a pas l'autorisation d'entretenir des relations, que ce soit amicales, amoureuses, ni même de participer à quelconque activité parascolaire. Là, lui, il doit aller à l'école, rentrer, faire les tâches du ranch, recommencer à nouveau, et ainsi va la vie de Cody. Mais c'est pas nouveau, là. C'est une règle qui suit depuis toujours, parce que, ben, comme je l'ai dit, Paul travaille sur les ranchs depuis toujours. Sauf que maintenant qu'il a 13 ans, ben, il commence à avoir un petit peu plus d'intérêt pour ces choses-là, et il va commencer à tisser des liens avec une camarade de classe, et il va tomber rapidement amoureux. Cette camarade de classe-là, elle est du Mexique, et Paul est tyran, ben, il refuse catégoriquement que Cody fréquente une fille issue de l'immigration, et surtout, ben, ils veulent absolument pas qu'elle le voie en dehors de l'école, donc il empêche le couple de se téléphoner, de se parler, d'entretenir quelconque relation. Cody a juste le droit de voir sa petite amie à l'école. Et comprenant que Cody n'a pas du tout l'intention d'arrêter de voir sa petite amie, ben ils vont le forcer de changer d'école. Évidemment, ben pour Cody, c'est juste une autre tuile qui s'abat sur sa tête, puis il est juste de plus en plus abattu. Le soir du 4 juillet 2004, qui est le 4 juillet, la fête nationale des États-Unis, soit-il dit en passant, donc pour les Américains, c'est une soirée assez festive, on va le dire comme ça, Cody posé, il se fait appeler dans la chambre de Paul et de Tyrone et il est vraiment surpris quand il entre et qu'il constate que ses parents sont nus. Il va tenter de s'échapper assez rapidement quand il comprend ce qui est en train de se tramer, mais Paul le force à rester et lui dit qu'il doit participer. Cody continue de refuser, mais son père n'accepte pas le refus. Il va s'emparer d'une torche de propane. C'est des torches qu'on utilise dans les cuisines pour flamber une crème brûlée, pour vous donner un petit exemple. Et il va brûler son propre fils sur l'épaule. Cody va réussir à s'enfuir après avoir reçu cette brûlure. Il va se réfugier dans sa chambre comme un espèce d'animal blessé, qu'il est un peu en soi. Et le lendemain, alors qu'il est en train de prendre soin des chevaux, son père va entrer dans l'écurie, ils vont recommencer à se crier après la tête, et lorsque Paul envoie un coup de poing au visage de Cody avant de quitter l'écurie, Cody voit noir. Il va s'armer d'un fusil qui était dans l'écurie en cas de menace quelconque, il va entrer dans la maison et c'est là qu'il va voir que sa belle-mère, Tyrone, elle est confortablement assise dans le salon en train de lire un livre. Il va froidement aligner son arme et tirer deux coups. Il va atteindre Tyrone posé à la tête et elle décède sur le coup. Évidemment, ça fait un énorme vacarme, donc Paul posé arrive en courant et entend trombe à partir de la porte patio arrière. Il était toujours dans le cadre de porte lorsque il va recevoir un coup de feu en plein visage tiré par Cody. Il s'écroule sur le dos immédiatement, mort sur le coup. Et aussi attiré par le bruit, ben, il y a Marie-Léa qui va arriver en courant derrière ce qui est maintenant la dépouille de Paul. Et ben Cody n'attend pas ni une ni deux, il lève son arme et tire deux coups en plein visage. Il va ensuite placer les corps de Paul, Tyrone et Marie-Léa dans la pelle d'un tracteur, va conduire les dépouilles jusqu'à un tas de fumier. Il va jeter le corps de ses trois victimes dans le tas de fumier en se disant qu'il y a beaucoup moins de chances que les cadavres soient sentis s'ils sont dans un tas de merde. Il se nettoie rapidement avant de prendre les clés de la voiture de Paul, voiture que Paul a également le droit de conduire. Là. Il va se rendre chez ses amis Léo et Gilbert Salcido. C'est des amis qu'il a rencontrés à l'école avec qui il a des bonnes relations, mais qu'il voit presque jamais en dehors des cours parce que, ben, comme je l'ai dit, Paul l'empêchait d'entretenir cette portion-là de sa vie. Ironiquement, le journaliste Sam Donaldson, qui était le propriétaire du ranch sur lequel Paul Posey vient d'être assassiné, ben, il a décidé d'aller profiter d'un petit séjour sur ses terres avec sa femme et sa belle-mère pour célébrer la fête nationale du 4 juillet, mais il va juste être en mesure d'arriver le 5, exactement le jour du meurtre de la famille Posey. Quand le journaliste arrive chez lui, puis il remarque que la voiture de son intendant est pas là, il devient un peu suspect parce qu'il se dit que Paul... Il a pas du tout affirmé qu'il allait être absent. Puis c'est un excellent employé, là. À défaut d'être un père exécrable, c'est un employé envers lequel tu pouvais porter toute ta confiance. Donc, puisque Paul lui avait pas dit qu'il s'en allait, ben Sam Donaldson se met automatiquement sur ses gardes. Lorsqu'il arrive près de l'entrée, il remarque qu'il y a des taches un petit peu effacées, là, mais il est persuadé que c'est du sang coagulé. Là. C'est brunâtre, ça semble avoir été traîné sur le sol. Et lorsqu'il aperçoit la porte arrière et l'énorme tache de sang, il n'y a plus aucun doute qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans son ranch. Il va alors consulter sa femme, sa belle-mère, et ils vont tous prendre la décision de contacter les services d'urgence et ça sera pas trop long que les policiers vont arriver. Et après avoir inspecté les traces, tout le monde va convenir qu'il y a une tragédie qui doit s'être produite au ranch. Justement, les policiers vont déterminer que les espèces de traces de sang traînées sont justement des traces qui ont été causées par des corps ensanglantés traînés. Donc, ils vont essayer de suivre les traces du tracteur qui ont été faites juste à côté des traces de sang. Donc, il y avait des traces de sang qui menaient jusqu'à des traces de tracteur. Donc, les policiers ont suivi les traces de tracteur. Et lorsque ils suivent les traces de tracteur, ils arrivent bien évidemment au tas de fumier. Et, ben, malgré le fait que Cody pensait que le tas de fumier allait cacher l'odeur de putréfaction, le policier va sentir une forte odeur de cadavre en putréfaction. Là, on l'a déjà dit quelques fois sur ce podcast, mais un corps en décomposition, ça dégage une odeur tellement particulière que ton corps est comme programmé pour savoir que c'est pas une odeur normale. Fait que même si c'est camouflé dans de la merde, tu vas le sentir. Donc justement, les autorités le sentent et en regardant de plus près, le policier semble voir une espèce de bout de tissu. Il va prendre une branche pas trop loin, la planter dans le tas de fumier et il va en sortir une main. lorsque tout le monde apprend la mort de Paul, Tyron et Marie Léa, ben, il y a un ami de la famille qui va téléphoner au service d'urgence pour informer les autorités que Cody Posey est chez ses amis. Les policiers vont pas attendre plus longtemps, vont interroger Cody Posey le 7 juillet 2004. A priori, le tueur nie toute implication dans l'affaire. Là, il dit qu'il est pas du tout au courant, qu'il était chez ses amis toute la soirée, mais devant l'insistance des policiers, il se prend la tête entre les deux mains, il se met à pleurer et il dit « J'en avais marre de me faire battre par mon père ». Donc, face à cette révélation, le policier va lui demander ce qu'il a fait pour remédier à la situation et Cody va répondre « Je l'ai tué ». Il va se faire passer les menottes, il va être incarcéré automatiquement et il va attendre son procès derrière les barreaux et le procès va arriver en janvier 2016. Considérant que Cody, il a juste 14 ans quand il assassine sa famille en entier, il va être jugé dans un tribunal jeunesse. La défense essaie de démontrer que pour les meurtres de Paul, Tyron et Marilea, ça a été tout simplement le résultat de d'années et d'années et d'années d'abus. Il appelle à la barre de nombreux témoins qui vont affirmer avoir remarqué que Cody portait des marques de violence, qui s'était fait abuser. Mais les procureurs Sandra Grisham et Janice Schreiser vont appeler à la barre des témoins qui, eux, ben, nient toute l'affaire, donc vont vraiment semer le doute dans l'esprit du jury. Et ils affirment que Cody a tué sa famille de sang-froid, que c'est un tueur dangereux. Donc, en gros, le jury est pris avec un assez gros dilemme. Dans le brouhaha de tous les témoignages, il y a d'ailleurs un expert en informatique qui se présente à la barre et qui affirme au jury qu'il a retrouvé des centaines et des centaines de documents pédopornographiques dans l'ordinateur de Paul Posey. Avant sa mort, là, Paul aurait entre autres fait des recherches avec des mots-clés tels que inceste, sexe en famille, père et fille sexe, et, ben, comme je viens de le dire, il possédait des images enregistrées dans sa banque d'images personnelles. Considérant l'âge de Cody, ben, il y a deux résultats possibles à l'issue du procès. Comme le demandent les procureurs, Cody pourrait recevoir une peine d'emprisonnement à vie et bien passer le restant de ses jours derrière les barreaux, ou il pourrait recevoir une peine d'emprisonnement jusqu'à sa majorité avec un suivi accru pour assurer sa réhabilitation et sa réinsertion dans la société. Ça va prendre 12 heures pour le jury avant d'arriver à une conclusion et on est le 7 février 2006 lorsqu'on va déclarer Cody Posey coupable des meurtres au premier degré de Paul Posey et de Mariella Schmidt. Il va obtenir également un verdict de culpabilité pour le meurtre au deuxième degré de Tyron Posey et le juge, après avoir décidé d'être clément envers le jeune Cody Posey, affirme que malgré la douleur, malgré la détresse qu'il a ressentie, ouvre la station, nul n'a le droit de se faire justice soi-même, fin de la station. Donc le juge prend la décision d'envoyer Cody dans un centre de détention pour mineurs jusqu'à ses 21 ans. Dans le centre d'incarcération jeunesse, Cody, il montre l'exemple. Il réussit ses études secondaires haut la main, lui qui avait eu de la difficulté à même obtenir des résultats de passage auparavant en étant incarcéré, ben, il réussit à passer haut la main et il va même encourager ses camarades à faire de même. Il va accumuler de nombreux crédits pour un éventuel avenir universitaire, puis ben, il prend le temps aussi d'encourager ses camarades dans le centre de faire pareil. Il devient une espèce de leader positif, une espèce de mini-tuteur, puis il a créé une espèce d'engouement autour des études, ce qui est assez anormal habituellement pour des jeunes en réhabilitation. Cody Posey, en étant incarcéré, il se transforme doucement en une espèce de leader positif, puis il se fait une très très bonne réputation dans son centre jeunesse. Et le vendredi 8 octobre 2010, un jour avant son 21e anniversaire, il va être officiellement libéré. Son oncle maternel, Claude Cleese, il va l'épauler, il va le prendre sous son aile pour assurer sa réhabilitation. Et Cody va prendre la décision de changer de nom et puis n'a jamais été réimpliqué avec la justice. Si on a collectivement pardonné à Gypsy Rose Blanchard, est-ce qu'on devrait pas pardonner à Cody Posey aussi? Est-ce qu'une personne peut se donner justice lorsqu'elle est autant abusée? Quand est-ce qu'on trace la ligne de légitime défense? La question se pose. Un petit rappel que cet épisode a été en partie créé grâce aux recherches faites par Christian Page dans son dernier livre « Quand les enfants tuent », disponible sur n'importe quelle bibliothèque québécoise et même sur Amazon.
Excellent épisode, je trouve que comme d'habitude, on dirait, je me répète à chaque fois, mais je trouve que tu réussis à faire de la magie avec tes mots, puis de tout dire en l'espace de moins de 40 minutes. Pour moi, c'est, comme j'ai dit, c'est de la magie. Je trouve ça super intéressant, puis je trouve ça intéressant aussi Gypsy Rose Blanchard, dites-le comme vous voulez, qu'elle est plus en prison, mais son ex, son copain à l'époque qui a tué sa mère, lui, il a tellement pas le même traitement de faveur qu'elle. C'est sûr que lui aussi, c'est différent. T'sais, chaque situation a son contexte. Et justement, je trouve que chaque situation a son contexte. Puis dans notre société, il y a une lacune de ce côté-là, de comprendre justement le contexte de chaque chose. Je dis pas que pour tout le monde, il faudrait être compréhensible. T'sais, un meurtre, ça reste un meurtre. Mais là, justement, tu sais, le juge, moi, ça m'a un peu chicoté, le juge, quand il a dit « personne n'a le droit de faire justice soi-même ». Effectivement, tu sais, je veux pas excuser le comportement de Cody. 3 meurtres, c'est beaucoup, tu sais. Mais justement, non, faut pas se faire justice soi-même. Mais pourquoi est-ce qu'un jeune de quoi, 14 ans, a été forcé à se rendre à ça? C'était sa seule issue. Les gens qui étaient censés le protéger, le gouvernement qui était censé le protéger, il était où? C'est pas juste Cody qui a pas bien agi, c'est toutes les autres avant lui aussi. Un enfant est censé être protégé par son entourage, mais aussi par le gouvernement. Je trouve ça, en tout cas, tu sais, on le dit souvent, crime et cocktail, understanding, not excusing, donc on comprend, mais on n'excuse pas, mais je trouvais ça un peu, pas spécial que le juge dise ça, mais avec toute la situation, j'ai pas beaucoup apprécié son commentaire. Je pense que ça aurait pu être formulé autrement, vu le contexte de la situation.
Ouais, je trouve ça tellement bien ce que t'apportes aussi en termes de si c'est rendu là, c'est parce qu'il a été échoué. En fait, parce que les adultes qui étaient supposés prendre soin de lui ont échoué à maintes et maintes reprises. Tu l'as dit tout à l'heure, il a essayé d'en parler à des enseignants, ça a été signalé avec le personnel hospitalier, il y a même eu un rapport qui a été envoyé au shérif. T'sais, il y a des efforts qui ont été faits du côté, par exemple, des protecteurs de Cody, de ben, Carla avant qu'elle décède, t'sais, puis ça a juste complètement été ignoré. Puis Cody, il a dû manifester là, son désir de pas retourner chez Paul après le décès de Carla, puis il a quand même été retourné là parce que légalement, on envoie un enfant avec son père ou avec sa mère. Puis Cody, la vérité, c'est qu'il aurait probablement été 100 fois mieux s'il était resté avec son beau-père à cette époque-là, puis que le beau-père avait pris la garde de Cody. Tu sais, là, je sais pas si c'était même possible, mais on spécule, on parle. Si Cody n'avait pas vécu chez Paul, serait-il devenu un meurtrier? La question se pose.
Effectivement, ce que je trouve intéressant aussi, c'est tout le temps la suite des choses. Comme là, après que quand Cody était en prison, son comportement était exemplaire, il aidait les autres à aller, tu sais, il les poussait au meilleur de leur capacité. Puis ensuite, on n'a jamais entendu parler de lui. Fait à mes yeux, je trouve que ça prouve que, tu sais, les abus, ben en fait, on a aussi des preuves, là. Avec ce que Cody disait, puis tout ce qu'on a trouvé sur l'ordinateur de son père, tu sais, on fait 1 + 1 = 2, là. Je trouve vraiment que, tu sais, on voit bien que c'est quelqu'un qui était pris dans une situation qu'il voyait sans issue. On se rappelle aussi qu'il était super jeune à ce moment-là. Il a sûrement eu aussi des traumatismes physiques avec toute la violence qu'il a subie. Mentalement, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui devait être stable puis qui a juste pété les plombs. Puis je trouve ça vraiment dommage pour la petite sœur qui a été au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai beaucoup d'empathie pour elle. J'excuse vraiment pas le geste qui a été commis envers elle, mais pour les parents, je dis pas d'aller tuer ceux qui, t'sais, nos bourreaux, je dis pas que c'est la solution, mais comme j'ai dit, dans le contexte de cette situation-là, je comprends ce qui s'est passé. J'excuse pas, je dis pas de le faire, mais je comprends.
En parallèle, Paul avait un père violent qui a été assassiné par sa mère. Donc si Paul a raconté cette histoire-là à Cody, Cody, dans son cerveau d'enfant, il est pas vraiment capable de faire la différence. Lui, il voit juste que si t'es sous le joug d'un père violent, la seule manière de t'en sortir, c'est de l'assassiner. C'est fait que l'enfant est pas capable de vraiment en prendre puis en laisser autant qu'un adulte peut faire. L'esprit critique est pas encore complètement formé. Fait que Cody a peut-être juste pris pour du cash qu'est-ce que Paul y a raconté. Tu sais, par exemple, si Paul y raconte comment il a perdu son propre père, dans l'oreille de quelqu'un qui se fait abuser par son père, ça peut être entendu d'une mauvaise manière.
Et tu rajoutes les traumas sexuels, physiques et mentaux, on dirait que c'est pas surprenant que ce soit arrivé. Je suis même surprise que ce soit pas arrivé plus tôt. Honnêtement, c'était tellement grave la violence qu'il subissait. Mais bref, on veut encore le souligner. On dit pas que tuer, c'est correct. C'est pas ça qu'on dit du tout. Dans chaque situation, a son contexte. Et faut évaluer chaque situation individuellement, à mes yeux.
Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Puis tu sais, même si on l'a dit à quelques reprises qu'on trouvait que Paul était un personnage exécrable, ça veut pas nécessairement dire... En fait, ça veut pas dire du tout qu'on estimait qu'il méritait d'en payer le prix de sa propre vie. C'est juste qu'on peut comprendre, comme Noémie a dit, le cheminement qui a fait en sorte qu'un enfant de 14 ans a pensé que c'était sa seule issue, puis cet aspect-là en soi est juste absolument tragique.
Et voilà, c'est juste ça. Puis il a peut-être même pas eu le train de penser, c'est peut-être juste une psychose ou quelque chose qui s'est passé dans son cerveau, puis là, il s'est réveillé 10 minutes plus tard, puis tout le monde était mort. Le cerveau humain, on le connaît à peine, on sait pas tout ce qui peut se passer, puis de ce qu'on sait du cerveau, on sait que ça peut très bien arriver aussi.
Ouais, un moment donné, n'importe quoi se fait presser comme un citron, le jus commence à sortir.
J'aime ça, c'est bien, c'est bon comme... j'ai jamais entendu ça.
C'est comme, tu sais, l'expression, je suis pressée comme un citron. Mais moi, je vois toujours le jus qui sort de toutes les pores, tu sais, en mode genre, je vois pas bien. Fait que c'est comme mon image mentale que je viens de traduire en mots.
Je trouve ça excellent.
Ben moi, je pense que je sais qu'est-ce qui va être excellent. C'est ce que tu vas me présenter la semaine prochaine.
La semaine prochaine, je nous fais voyager dans notre propre pays, à moi et Jess, et même dans notre propre province. Ben, province que beaucoup voient comme un pays ici au Québec. Donc, je nous fais visiter une partie du Québec. Je trouve que j'en fais pas assez des cas québécois, et c'est un cas que j'ai été surprise de ne pas en avoir entendu parler, vu la grosseur, l'ampleur et la vague de panique et de choc et de paranoïa que ça a créé dans cette région-là. Donc, si vous voulez en entendre plus, vous n'aurez pas le choix de venir la semaine prochaine.
Ah!
Créer mes cocktails!
Cheers, guys!
Chin, chin!